franceinter.fr.
Bonjour. Le sujet d'interception aujourd'hui interroge profondément l'état de notre démocratie. Nous allons parler utilité publique. Le 25 octobre dernier à Sivens, dans le Tarn, la mort d'un jeune opposant à un projet de barrage a mis en lumière ces cas où des populations rejettent des décisions d'aménagement, pourtant officiellement reconnues d'utilité publique. En France, tous les grands projets d'infrastructure sont précédés de consultations qui offrent tous les signes de la transparence et de la démocratie. Ce peut être pour la construction d'une ligne à grande vitesse, une autoroute, une zone industrielle ou un aéroport. Tout cela serait donc parfait dans la meilleure démocratie du monde s'il n'y avait la réalité. Car face aux experts, face à des élus toujours gourmands de projets prestigieux auxquels on prête toutes les vertus, que pèse l'opinion du citoyen ? Mathilde Dehimy et Arthur Gerbeau se sont arrêtés sur trois sites qui résument les enjeux. Notre-Dame-des-Landes, le dossier emblématique, Agen, où des citoyens s'opposent à l'expropriation d'un agriculteur, et ils se sont arrêtés aussi sur le plateau du Larzac, le Larzac pionnier de la contestation contre la toute-puissance de l'État. D'utilité publique, c'est le titre de leur reportage.
Interception, le magazine de la rédaction.
On a été appelé par un agriculteur qui s'appelle Joseph Bonotto, qui s'est battu avec pas mal de gens pendant 5 ans juridiquement pour essayer justement lui de conserver ses terres et faire en sorte que ce projet n'existe pas. Et après 5 ans de lutte juridique, il en est venu à nous appeler comme dernière solution afin de mettre un peu pression quand il voyait qu'il allait être exproprié dans quelques mois, quoi. Et quand vous n'avez pas envie de quelque chose et qu'on vous dit tu seras payé et puis c'est tout, c'est difficile, ouais.
Bonjour.
Bonjour.
On est juste à la rencontre.
Les gendarmes,
ils
sont là.
Ils sont là, ouais.
Ils viennent nous voir.
C'est
sympa.
C'est le gendarme, ça,
non ? Oui. Oui, c'est le gendarme.
Ah ouais ?
Mais bon, de toute façon, pour nous, il n'y a pas ça.
Bonjour.
Bonjour.
On bronze.
Mais t'es pas à l'ombre.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, pour vous dire que quand même, on a un peu surveillé, vous voyez.
Ils font leur travail, moi j'ai rien contre ces gens-là, ils font leur boulot, ils surveillent. Je dis rien de plus que ça.
On a dégradé en plus dans la voiture des
trois. Oui, ça.
Oh, oui, c'est
dégradé. Ah oui, on a même un commandant. Oui.
Quel est l'objet de leur visite ?
Nous sommes chez Joseph Bonotto, un agriculteur qui a décidé de demander à des zadistes de venir occuper chez lui en toute légalité son champ. Bernard Perret, vous êtes conseiller écologiste d'Aquitaine, de la région Aquitaine.
Oui.
En quoi ces parcelles où nous sommes sont menacées ? Enfin, quels sont en tout cas les projets qui sont prévus autour de cette parcelle ?
La plus grande partie de la ferme de Joseph Bonotto est inclue dans le périmètre de la Technopole. Et donc, compte tenu qu'il refuse, lui, de les vendre à l'agglomération à l'amiable, il doit y avoir une procédure d'expropriation concernant ces terres.
Juste qu'on repose les choses. Alors, qu'est-ce qui est prévu et où à peu près par rapport au champ ?
Alors par rapport à ce champ-là, la LGV, je crois, passe à Ambout, là.
Oui.
Ambout et au milieu des terres de Joseph.
Ça, ce sera la ligne à grande vitesse.
Ça, c'est la ligne à grande vitesse. Et le périmètre, nous sommes ici sur le périmètre de la
Technopole.
De la Technopole.
Alors qu'est-ce que la Technopole ?
Alors la Technopole, c'est donc une zone d'activité industrielle que l'agglomération veut créer pour accueillir des entreprises. Donc c'est plus de 200 hectares, donc là qui
220 exactement.
Oui, 220 exactement. Voilà, dans l'espace que nous voyons ici, c'est-à-dire vous voyez là, on est dans la plaine là, hein, le bourg de Sainte-Colombe est là-bas en haut, on l'aperçoit
sur la colline,
mais ici tout cet espace plat, c'est la vallée de la Garonne. Et donc la zone va être implantée dans une bonne partie de la vallée que l'on distingue depuis ici.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un petit hameau, il y a plusieurs maisons, nous sommes dans un champ. En 2020, ça ressemblera à quoi ?
ben, ça va ressembler, si au moins les objectifs que se fixe le président de l'agglomération se réalisent, ce que nous mettons en cause, mais bon, s'ils se réalisent, eh ben, il y aura des grands hangars, des entreprises, ce sera fourni d'entreprises magnifiques qui vont créer un emploi extraordinaire d'après les prévisions. Tout le monde reconnaît qu'il faut faire attention à la préservation des terres, sauf que concrètement, les choses n'avancent pas.
Fin mars, après consultation des habitants, les commissaires enquêteurs ont pris une décision rare sur cette ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ils ont rendu un avis défavorable au projet, un avis simplement consultatif, et c'est l'État qui choisira à la fin de l'été. Mais pour Claude Semain, opposant de longue date, c'est une petite victoire.
Il y a eu une enquête d'utilité publique, c'était au mois de décembre, concernant la zone d'activité pour l'agglomération d'Agen. En tant qu'individu habitant le département, j'ai fait ma déposition. D'autres associations, d'autres personnes ont déposé des projets. Regardez le rapport du commissaire enquêteur, nous ne sommes même pas cités. Il n'y a rien eu. Moi, personnellement, j'ai déposé, j'étais consultant international en stratégie logistique et industrielle, c'était mon métier. Donc j'ai dit que la volonté des hommes politiques de développer quelque chose est quelque chose d'important, qu'il faut le faire. Mais il faut savoir comment le faire. Donc j'ai déposé ce dossier. Regardez les attendus et le rapport de conclusion du commissaire enquêteur qui était, rien n'est cité. Si on veut que ce soit efficace, il faut que la consultation des gens du terrain, les associations, les habitants puissent intervenir dès le début du processus. Car sans ça, ce sera trop tard. Et dans ce cas-là, ben, on va investir et puis on va se rendre compte après que ce n'est pas rentable. Mais quand l'ouvrage est terminé, c'est stupide. Donc il faut qu'on intervienne très tôt.
Claude Semain, vous coordonnez un certain nombre d'associations qui sont opposées à la ligne à grande vitesse. Quels sont les arguments qui justifient cette opposition, selon vous ?
Alors, on a créé beaucoup de LGV en France, LGV ligne à grande vitesse. Par contre, on peut parfaitement faire rouler des trains à grande vitesse, c'est-à-dire qui roulent au-delà de 200 km à l'heure, sur les lignes actuelles réaménagées. Ça coûte généralement 4 à 5 fois moins cher. Tous les pays européens, dont l'Allemagne, l'ont fait. Berlin est délivré par des trains à 200 km à l'heure. Il y a une grande mode en France. On dit, t'as raté ton mandat si tu n'as pas ta LGV. L'argument massu développé par Toulouse, par M. Malvy, Toulouse, quatrième ville de France, ne peut pas ne pas avoir de LGV. D'abord, la ligne est trop courte. Bordeaux-Toulouse, c'est 255 km. Mais si on s'arrête à Agen, c'est 135. Donc, le moyen est inefficace. Le deuxième chose, c'est que ça coûte abominablement cher. RFF, le réseau ferré de France, l'organisme national, dit que ça va coûter 8 milliards d'euros. On sait très bien que dans tous les projets de LGV qu'on existait en France, les coûts ont été dépassés systématiquement de l'ordre de 20 à 30%. Depuis 4 ans, régulièrement, la SNCF voit sa profitabilité se réduire parce qu'il y a la folie des grandeurs d'un certain nombre d'élus qui volent leur LGV. Que sommes-nous par rapport à ces grands élus qui ont le pouvoir ? Eh bien, on n'est rien. On ne nous a jamais écoutés. Vous avez des gens qui arrivent avec du beau matériel, des PowerPoint, de la musique, de la lumière, et puis qui vous dit ça. Quand on essaye d'intervenir pour prouver autre chose, on ne peut pas parler. J'ai personnellement assisté à 8 réunions avec RFF, mais on m'a fait taire.
C'est terrible là, la terre il y a de l'argile ici, donc c'est pas évident de faire la terre fine. Hein.
Ouais.
Alors, nous sommes ici sur le territoire du projet de Technopole Agen-Garonne. Et nous sommes plus particulièrement sur la ZAD, c'est la zone à défendre, donc, qui est occupée par un certain nombre de jeunes qui se sont installés, qui d'ailleurs sont là à côté de nous en train de jardiner, parce qu'ils comptent bien produire des légumes sur cette excellente terre sur laquelle nous sommes, et dont l'erreur fondamentale de l'agglomération agenaise, c'est de vouloir bétonner cette surface-là, qui va faire plus de 200 hectares.
On voulait mettre des grandes orties. On a quelques graines un peu d'orties.
Vous avez de la graine d'ortie?
Ouais. Un petit peu, ouais.
Ah ouais?
Ouais. Ça t'intéresse?
Ah non, parce que de l'ortie, je peux vous en porter.
Ouais.
Ah, ça, j'en ai, hein. Qui sont comme ça, votre, hein.
Ouais. Comment ça?
Si vous voulez faire.
Est-ce que vous considérez que vous êtes le moyen de pression une fois que les démarches et les recours juridiques n'ont pas abouti?
Plein de gens se sont rendus compte que les ZAD, effectivement, elles apportaient un nouveau poids dans la lutte que peuvent avoir les militants. Voilà, on peut aller sur du concret, et le fait d'être visible et d'occuper une zone, ça donne aussi beaucoup de potentiel et de vision de la cause, on va dire. Moi, je serais assez partisan que les gens donnent leur avis. Et si tous les habitants de Braque, Sainte-Colombe et quoi que ce soit disaient « Ouais, on est pour la zone d'activité », peut-être que déjà, on remettrait certaines choses en question.
Alors, c'est quoi l'objectif? C'est que si jamais le projet démarre vraiment, même s'il y a encore des recours juridiques, vous serez là pour essayer de les en empêcher, c'est ça?
Logiquement, oui. Logiquement, oui. Nous, on lâchera rien. Et ça, après, on verra plus tard. Parce que ça dépend un petit peu de comment intervient l'État, en fait. Parce que s'il intervient comme sur toutes les ZAD, c'est-à-dire avec violence, nous, à chaque fois, on est un peu désarmés face à ça, quoi. On peut pas faire grand-chose.
Vous étiez à Sivens, Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs?
Oui, j'étais à Sivens avant. Et je suis aussi allé à Notre-Dame avant. Donc j'ai vu quelques ZAD, notamment aussi celle du Morvan. C'était une toute petite ZAD, toute une série. Et puis voilà, je suis venu ici parce qu'à Sivens, on s'est fait expulser, donc... J'avais besoin de trouver un autre endroit sur lequel mon combat pouvait être assez semblable à celui de Sivens, parce qu'au final, c'est aussi des terres cultivables qui sont menacées.
Il faut savoir que les opposants ne sont pas des opposants locaux. Hein. On a fait ça en toute transparence depuis un certain temps. Ce qu'on a vu arriver, ce sont des gens extérieurs au territoire qui viennent avec des positions absolutistes qui ne sont pas concertées. Ils viennent nous imposer leur opinion, contraire à toute la démarche de développement durable qu'on a faite sur le territoire.
Henri Tandonné, vous êtes sénateur UDI, premier vice-président de l'agglomération d'Agen, et c'est vous notamment qui portez le projet de Technopole. Vous dites que vous avez respecté le processus de consultation publique.
Je peux vous confirmer qu'on s'est conformé à toutes ces étapes, qu'on a fait des études environnementales qui nous ont coûté fort cher. On a fait ça sous le contrôle de l'administration d'État, sous le contrôle de l'administration environnementale. Ce que je trouve un peu aberrant, c'est que moi j'ai une équipe de collaborateurs, 4 ou 5 collaborateurs, sans compter tous les cabinets d'études qu'on a dû consulter, qui travaillent depuis de nombreuses années. Et que on annule d'un trait de plume parce que vous avez des gens qui ont des convictions, qui veulent imposer aux autres, qui arrivent et puis qui occupent le terrain et qui, sous couleur de défendre des terres agricoles, veulent remettre en cause tout le travail qui a été fait, discuté, voté par les élus qui sont légitimement élus. Voilà, donc c'est une démarche qui va contre la loi, hein. Il faut bien le reconnaître.
Est-ce que vous craignez aujourd'hui un nouveau Sivens sur votre territoire? Sivens, c'est à quoi? Une centaine de kilomètres à peu près d'Agen?
Oui, on peut toujours craindre ça, si vous voulez. Bon, alors effectivement, ils ont envahi une maison ancienne qu'ils ont occupée. Voilà, donc on va les faire expulser, bien entendu. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont quand même toute une stratégie de communication et une stratégie de provocation. Moi, je suis très patient, vous savez, parce que je suis dans mon bon droit. J'ai déjà développé ce genre de zone. Je sais qu'on en a besoin, je sais que les entreprises en ont besoin. On a déjà une liste d'entreprises qui sont en attente. Et tout ça, bon, c'est pour le bien des gens. Hein. Bon, ces zadistes, ça me paraît assez folklorique. J'ai vu cette semaine qu'il y avait 3 nouvelles zones zadistes qui se constituaient, une dans les Landes, 2 en Charente-Maritime. Je pense que cet été, ils iront peut-être en Charente-Maritime. Mais bon, chez nous, ils n'auront pas grand-chose à faire. Les agriculteurs autour commencent à s'impatienter parce que quand on leur donne des leçons d'agriculture et qu'on voit les pitoyables potagers qu'ils sont en train de faire, ça fait plutôt sourire.
Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui aménager la France ? Est-ce que vous êtes optimiste de ce côté-là ?
Oui, parce que bon, je pense pas que. Parce que les zadistes, vous savez, ils sont pas très nombreux, ils sont marginaux. Ils n'ont pas le soutien des populations. À Cervène, il n'y avait pas le soutien des populations d'agriculteurs. Les agriculteurs, ils savaient de quoi ils parlaient. Voilà, donc ces phénomènes. Bon, après, il ne faut pas non plus qu'ils transforment chaque zone où il y a des infrastructures à faire en zone de non-droit. Quoi. Et là, je pense que l'État doit être ferme, hein, parce que chaque fois qu'on a des gros travaux à faire, s'il y a des zadistes qui viennent, je pense que ça va tourner au vinaigre.
Sur le causse du Larzac, en Aveyron, les militaires s'entraînent toujours au tir. En 1971, le camp devait s'étendre de 30 à 170 hectares. Une centaine de paysans devaient alors être expropriés. Mais ils se font la promesse de ne jamais céder leurs terres. La lutte du Larzac, soutenue par des milliers de personnes, va durer 10 ans. On est où ici, Léon ?
Nous arrivons chez Marie-Josette Tarlier, qui habite là depuis bientôt 60 ans, je crois. En plein Corse, vous voyez, toute seule, les plus proches voisins sont à 700 mètres.
Marisette, elle est comme vous, c'est une des historiques du Larzac.
Ah, Marisette, c'est une historique, sauf que moi je suis né sur le Larzac, elle est venue, elle avait 40 ans, parce qu'elle est arrivée au Larzac, puisqu'elle venait d'Afrique, là-bas, elle travaillait en Afrique avant. Mais eux, c'était les pionniers avec son mari, qui était le leader de l'époque, c'était un des pionniers du Larzac. Moi, j'étais un simple paysan, normal, je votais à droite, j'allais à la messe. Tout à fait normal, je ne manifestais pas à l'époque. Depuis, ça a changé, évidemment.
Bonjour, madame. Merci de votre accueil.
Je vous en prie.
Bonjour, Marisette.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Arthur.
Mathilde.
Arthur. Et Léon. Oui. Bonjour.
Elle est très belle, votre maison.
Ah oui, voilà. C'est une maison qui était toute en ruine quand on est arrivé et que l'on a restaurée petit à petit. C'était une bergerie, quoi, bien sûr. Ce sont des voûtes superposées. La bergerie était en bas, la maison d'habitation était là.
On n'a pas fait les présentations.
Oui.
Comment vous présentez aujourd'hui ?
Moi, c'est Marisette Tarlier. J'habite sur le plateau du Larzac depuis 1965. Je suis arrivée, bien sûr, avec mon mari. Nous étions en Afrique avant, en Afrique noire. On faisait du café et on est arrivé ici pour faire de la brebis, quoi. C'était un changement total. La lutte du Larzac a commencé en 70-71 et pendant 5 ans, on ne connaissait personne. On était, bon, comme dans toutes les... C'est pas spécial au Larzac, hein, souvent dans toutes les campagnes, on était les étrangers. Et il a fallu que le Larzac éclate pour que Guy fasse les premières démarches, hein, là, aille chez les voisins.
Et 40 ans après, c'est devenu un peu la grand-mère de tout le monde.
Oui, ça c'est vrai. On a des liens indescriptibles entre nous tous, quoi, voilà. Il peut arriver n'importe quoi, tout le monde est là. Voilà.
Vous avez quel âge, Marisette ?
82 ans et demi.
Mais sur Larzac, nous avons quelques personnes de son âge qui ont une forme d'enfer. Elles n'arrêtent pas de militer partout. Hein. J'ai l'impression que de militer, ça fait vieillir beaucoup mieux.
Pardon. Ok. Voilà, installez-vous. Tiens, t'as vu, Léon, parce que nous voyons. Asseyez-vous. La maison, ce n'était plus habité depuis la guerre de 14, où il y avait eu beaucoup de victimes. Et hélas...
Et vous arrivez 50 ans plus tard, c'est ça?
Voilà. Voilà. Et alors au milieu, là où il y a la table, il y avait un arbre qui poussait. Et alors, on s'est vraiment cassé la tête tous les deux en se disant, on va garder l'arbre quand même, bon, ça va être formidable. Bon, et puis, non, c'était de l'utopie, comme souvent. Voilà.
Il y en a beaucoup d'utopies dans cette histoire. Oui. Des utopies qui, parfois, ont été jusqu'au bout.
Ah, ben oui, heureusement. Mais on a eu un aiguillon formidable. C'est-à-dire qu'on a été complètement méprisés par ce gouvernement. Et le député qui était à l'initiative un peu, qui cherchait à se glorifier, à faire un camp militaire. Et les gens l'ont appris, pour la plupart en regardant la télévision, moi dans une pharmacie à Millau, enfin voilà. Alors c'est un mépris le plus total, parce que je pense qu'il s'y serait pris autrement, en disant la défense nationale, l'armée, peut-être que ça n'aurait pas pris comme ça. Mais quand on méprise les gens, c'est un aiguillon formidable justement pour se révolter et pour ne pas accepter cette chose-là.
Jean-Claude, mais c'est Ticlo, on m'appelle. Voilà. Une des raisons du succès du Larzac, à mon avis, c'est que c'est toujours les gens d'ici qui ont mené la balle. Quand je rigolais, quand je disais « Ouh, les paysans de Larzac, ils sont manipulés par des gauchistes ». C'est pas vrai, c'est le contraire. C'est nous qui avons manipulé les gauchistes et pas le contraire. Bon, alors là, je rigole parce que les paysans, ça doit être illettrés, ça doit être con, ça doit être... Bon. Et l'inconvénient de lutte comme Sivens ou Maché, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur que de gens du coin qui viennent, qui sont du cru, qui mènent la danse.
Mais les gens de l'extérieur, ils sont venus aussi sur le Larzac.
Oui, mais c'est pas eux qui ont décidé.
Oui, mais c'est pour ça que je disais le grand respect que j'ai pour ces gens qui sont venus nous aider, parce qu'ils venaient tous les mois de Paris, de tous les coins de France.
Ah oui.
Et vraiment, c'était formidable. De temps en temps, ils auraient peut-être voulu qu'on soit plus actif n'est pas le bon mot, parce qu'on était actif, mais qu'il y ait un peu plus de violence. Et c'était pas du tout notre choix. Et ils étaient très respectueux des décisions que l'on pouvait prendre. Et ça, c'est une grande force. Vraiment, ils avaient un profond respect envers les paysans, je trouve, que quand on avait des décisions. Maintenant, quand ils avaient des choses
qui étaient patentes... On leur a quand même annoncé la couleur. On leur a dit il fallait que ce soit nous qui décidions des actions à faire. Parce qu'à partir du moment où ça vous échappe, d'abord, il peut y se faire des conneries, des violences gratuites et des trucs. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des moments durs, mais enfin, il n'y a pas eu de trucs très graves, quoi, je veux dire. Bon. Et ça a duré 10 ans, quand même, ça aurait pu.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur les principaux lieux d'opposition à des grands projets? J'en cite quelques-uns, que ce soit à Roibon, en Isère, contre un Center Parcs, le barrage de Sivens. Vous, Marisette, par exemple, vous connaissez ceux qu'on appelle les zadistes de Notre-Dame-des-Landes?
Moi, je suis allée, comme d'autres, sur le plateau plusieurs fois, aux manifestations, quand ils ont fait le jeûne. On y est allé. Et il y a de tout. Il y a des gens très violents et il y a des gens moins. Et puis maintenant, ils font de l'agriculture, ils font du maraîchage. Mais maintenant, moi, je ne veux pas juger parce que c'est aux gens sur place, là aussi, de respecter ce que veulent les paysans. Ce qui me gêne dans Sivens, c'est que quand ils interviennent à la télé ou ils sont cagoulés, ça me gêne. Peut-être
j'ai
tort.
Les casseurs,
Il faut toujours assumer ce que l'on fait. Mais là, je trouve qu'on fait un ancien combattant quand même.
Un peu, oui.
Parce qu'il se passe plein de choses.
Ah oui, mais j'étais à Gergovie, moi, monsieur.
Je m'appelle Léon Maillet, et je suis né ici à 70 ans.
On est où, Léon, là?
Et là, nous arrivons à la Blaquière, devant la fameuse bergerie qui ressemble à une cathédrale. Il faut se rappeler qu'en 73, là, il y avait un champ où il n'y avait absolument rien. On a construit sans permis, puisque le paysan Auguste Guiraud avait une bergerie qui menaçait de s'écrouler. Et donc, il avait demandé un permis de construire, ça lui avait été refusé. Donc, on a dit, légitimement, il a droit à une bergerie, donc on l'a construit. Et donc, il y a des militants qui ont porté des pierres gravées. On va en voir tout à l'heure un certain nombre. Et ça reste notre cathédrale à nous, et comme elle est faite avec du ciment, même du béton armé à un endroit, je veux dire que dans quelques siècles, elle sera encore là, on est tranquille.
Elle représente quoi pour vous, Léon, cette cathédrale bergerie?
Ça représente notre volonté de vivre à cet endroit, de prendre les moyens pour y arriver, même s'ils ne sont pas légaux. Parce qu'au Larzac, on a toujours su faire la différence entre la légalité et la légitimité. D'ailleurs, quand ils ont démonté la Bastille, à l'époque, ce n'était pas légal. Maintenant, c'est la fête nationale, on voyait que ça devait être légitime. Voilà, on a toujours fait cette différence-là. Oui, c'était illégal d'arracher les OGM. On l'a fait, maintenant c'est devenu illégal de les planter. Voilà. Vous voyez, c'est la pierre marquée servir le peuple. Il y en a d'autres. Il y a une pierre à la Palestine. Il y a la pierre Lip. Il faut la trouver, un peu cachée d'ailleurs.
Parce que différentes personnes ont participé à la construction.
Ah ben ouais, par moment, il y avait 100-200 personnes qui travaillaient là. Bon, il y a le sigle non-violent.
Léon Maillet, vous étiez chez vous et un jour vous apprenez que le camp du Larzac, le camp militaire, va être étendu. Où est-ce que vous étiez à ce moment-là?
Je ne me rappelle pas. Je devais être peut-être moi aussi devant la télé. Je ne sais pas exactement où j'étais à ce moment-là. Je ne me rappelle plus du moment. Mais je me rappelle de l'émotion collective des jours qui ont suivi. Parce qu'on se disait, tiens, ce coup-ci, ils vont le faire. Jusqu'à maintenant, on a entendu des bruits, mais on ne pensait pas qu'un jour, les militaires oseraient faire ça. Et puis là, comme le ministre avait annoncé à la télé, on s'est dit, ah, ça paraît officiel. C'est là qu'on a commencé à bouger, que justement Guy Tarlier et d'autres voisins, les Pierre Burguer, sont venus en disant, il faut qu'on se réunisse, on ne va pas se laisser bouffer comme ça. Mais le Larzac a démarré comme ça, tout petitement, quoi. Et au début de la lutte, c'était pour garder le Larzac paysan. Et puis, petit à petit, notre esprit a évolué, et puis après, on voulait plus vendre nos terres pour en faire un camp militaire. Et à la fin, on se bagarrait plus contre l'armée que pour garder nos terres. Voilà.
Alors, il y a eu une enquête publique. C'est quoi pour vous une enquête d'utilité publique?
À l'époque, nous, on pensait qu'une enquête publique était chargée de démontrer, c'était un commissaire, des commissaires, on en avait trois, mais nous, trois commissaires enquêteurs qui devaient déterminer si, par rapport aux projets de l'armée et par rapport nos arguments à nous, est-ce que c'était utile de faire le camp ou pas. En fait, c'était la parodie, c'était pour amuser la galerie, évidemment, puisque les commissaires enquêteurs, ils disent rarement le contraire, celui qui les paye, c'est-à-dire l'État, voilà. L'unité publique, à l'époque, c'était du bipo, c'est évident.
Qu'est-ce que vous avez montré, alors, avec le Larzac?
Eh bien, qu'une population déterminée, elle peut se défendre contre un État, afin contre une décision d'État. On a souvent entendu dire que le Larzac était une lutte extraordinaire menée par des gens ordinaires. Alors, on n'était pas préparé à ça, on n'avait pas d'entraînement avant. Hein. Ce qui prouve que le Larzac aussi peut être fait aussi par tout le monde. Oui. Chacun dans son coin peut faire quelque chose.
Ça va bêler quand on va ouvrir un peu. Hein.
Quand même, c'est une merveille. Hein. Regardez les arceaux.
Pas de tomber.
Non.
Le vent se lève sur le Larzac. Ouais.
Oh. Mais on voit une belle semaine. Je suis Christiane Burguer. J'habite sur le Larzac depuis 1965, date à laquelle j'ai épousé Pierre.
Moi, je suis de tradition paysanne, comme Christiane aussi d'ailleurs. Alors regardez quand même, c'est la majesté de ces rochers. Ça, alors le lieu là s'appelle le Rajal del Gorp. C'est le trou du corbeau. Alors vous allez voir, ça fait un cirque. Et ça semble rien, mais le cirque qu'il y a là derrière, ça fait 5 hectares. C'est pour ça que c'est des journalistes, d'ailleurs, qui nous ont aidés à calculer le nombre de personnes et qu'on était à près de 120 000 personnes en 1974.
L'enquête publique, c'est un outil de démocratie. Il y a un autre outil possible qui est saisir la justice. Si vous n'étiez pas d'accord avec ce projet d'extension de camp, pourquoi ne pas vous tourner vers la justice?
Mais elle a eu lieu, la justice.
Nos avocats nous ont dit: vous ne devez jamais négliger la moindre capacité qui nous permette de faire un recours pour attaquer les décisions. Et on a tout fait, et c'est là où en 81, début 81, on avait épuisé tous les recours juridiques, il n'y avait plus rien puisque les ordonnances d'expropriation étaient prises. Il manquait à envoyer les flics dans les fermes pour chasser les paysans. Je préfère ne pas l'avoir vu parce que ça aurait été dramatique là.
Chantal Alvernia, je suis éleveuse de brebis laitières sur le Larzac depuis 35 ans à peu près. On est là pour dire qu'on a réussi, nous, qu'on peut faire autre chose, un autre modèle agricole, que ce territoire qui était soi-disant déshérité, selon Debré, ben, on a des héritiers, nous, on a des enfants qui restent, on a des troupeaux partout, la volonté de produire de l'énergie localement, de conserver des paysans nombreux, de faire des produits de qualité, de laisser rentrer les gens dans nos fermes. Ben, oui, bien sûr qu'on a l'espoir.
Christiane, donc la lutte du Larzac dure 11 ans à peu près.
Presque, oui.
Qu'est-ce qui vous a fait gagner? Qu'est-ce qui a permis que ça s'arrête?
Ben, c'est les politiques. Hein. C'est François Mitterrand qui avait dit « si je suis élu, je rendrai la terre aux paysans ». Et il a tenu sa promesse, ce qui est exceptionnel, ce qui est rare.
Et là, il nous a dit « nous nous devons notre victoire, réciproque ». C'est-à-dire nous, le Larzac, et lui, son élection.
Nous avons 800 km de route devant nous. Direction Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, un autre symbole de résistance. Alors, la Thomerie, qu'on devrait pas tarder à arriver à Notre-Dame-des-Landes, et elle a dit que c'était après le village qu'il fallait continuer sur quelques kilomètres. On se rapproche, là on voit écrit « Non à l'aéroport » dans un champ le long de la route. Alors ce qu'on appelle la ZAD ici, c'est 1600 hectares, c'est la ZAD, c'est la première ZAD de France d'abord, et ensuite c'est la plus grande ZAD de France. Aujourd'hui il y a une centaine de personnes qui l'occupent, disséminées sur une quinzaine de camps. Alors soit ce sont des cabanes en bois, en tout cas des bâtiments construits ex nihilo, soit les ZADistes occupent des maisons, de personnes qui ont été expropriées et qui leur permettent de garder le terrain au cas où les policiers, les forces de l'ordre viendraient les évacuer. Il n'y a pas vraiment d'entrée sur cette ZAD puisque c'est un vaste territoire de 1600 hectares. C'est en fait la surface prévue pour créer l'aéroport et les pistes de l'aéroport. Il y a un axe principal qui est la D281 qui longe ce projet d'aéroport sur laquelle les ZADistes ont installé des chicanes pour ralentir les véhicules en cas de nouvelle arrivée des forces de l'ordre. Alors on a rendez-vous au local des opposants, c'est en fait un vaste hangar agricole qu'ils ont astucieusement baptisé la vache riz en deux mots. On a rendez-vous avec Julien Durand qui est un paysan agriculteur retraité et qui est aussi le porte-parole de l'ACIPA qui est une des plus grosses associations d'opposition. Julien Durand, vous êtes porte-parole du collectif ACIPA, qui est opposé au projet Notre-Dame-des-Landes. Où est-ce qu'on est, là, aujourd'hui?
Là, nous sommes au lieu-dit Les Domaines, dans le local de la vacherie, qui avait été monté par nous-mêmes en 2007. C'est notre salle de réunion, de rendez-vous des associations et en lutte contre le projet d'aéroport. Nous sommes situés sur l'emplacement hypothétique de la piste nord.
Vous êtes Julien Durand, vous êtes né ici, vous êtes toujours opposé et battu contre ce projet de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui avec le recul de toutes ces années de lutte contre ce projet d'aéroport?
Je ne suis pas en colère, je suis tout simplement responsable. Nous avons engagé une lutte, nous devons l'amener jusqu'au bout, l'amener le mieux possible avec la population. Et aujourd'hui, sur Notre-Dame-des-Landes, la population accepte notre lutte, elle y participe de temps en temps, plus ou moins fortement, et tout le monde, la révolte qu'il y a eu au cours de l'opération César en 2012,
Alors, opération César, c'est l'évacuation, l'évacuation de la ZAD par les forces de l'ordre.
La tentative d'évacuation de la ZAD quand Jean-Marc Ayrault était Premier ministre et Valls, ministre de l'Intérieur, elle a échoué. Elle a échoué pourquoi? Parce qu'il y a eu une mobilisation insoupçonnable pendant 3 mois sur place, tous les jours. Donc, il faut quand même que le pouvoir politique se pose des questions. On nous a fait participer à une élaboration d'un projet à travers des strates de participation qui sont plus du temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que les politiques se rendent compte, et c'est ce que j'ai découvert moi pendant le débat public, que la société civile, quand elle sait se rassembler, qu'elle sait rassembler toutes ses forces, moi de simple paysan, j'y connaissais rien au problème de l'aviation. Aujourd'hui, on se retrouve à débattre avec des collectifs de pilotes qui nous ont rejoints, des ingénieurs qui nous ont rejoints, des architectes qui nous ont rejoints dernièrement, qui travaillent sur le Nord-Atlantique, des patrons des entreprises de travaux publics qui nous ont rejoints. Donc, c'est quand même pas le hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, faisons confiance à la société civile quand elle sait se rassembler et qu'on veut aller vers un but commun. On est capable de faire des choses sensationnelles. Et même, on peut aujourd'hui. Et on lutte aujourd'hui à armes égales avec l'administration. On n'a pas besoin de sortir de l'ENA. Alors l'erreur que là, qui peut nous mettre un peu en colère, c'est que quand on participe dans des réunions sur des dossiers à la préfecture, c'est toujours la science, ça vient du côté du pouvoir, mais pas du côté de la population. Et nous, on a ce qu'il faut, et on peut débattre, mais il ne faut pas que les dés sont pipés. Il faut avoir le courage de la transparence totale sur tous les dossiers, sur l'ensemble du dossier.
Vous avez eu le sentiment qu'on ne vous a pas présenté tous les dossiers sur la table au moment, par exemple, vous, de solliciter votre avis lors de l'enquête publique ou plus tard?
Nous, quand un débat public s'est fait pour débattre, nous, on a fait des propositions de mettre tous les aéroports du Grand Ouest en réseau. On peut équilibrer l'économie du territoire au lieu de tout concentrer sur la métropole de Nantes. Après, on va se plaindre que des régions comme Châteaubriant, au nord-est de la Loire-Atlantique, se dépeuplent. Après, on a avancé le réaménagement de l'Atlantique. On nous a toujours dit non. On ne débat pas de ça, ce n'est pas le sujet. Il fallait que nous, on accepte le dossier de Notre-Dame-des-Landes comme un paquet cadeau ficelé. On n'avait rien à dire. Et ça, c'est pas normal.
Nous nous rendons à l'Assemblée Générale du CDEPA. C'est le collectif d'élus et d'anciens élus doutant de la pertinence du projet d'aéroport. Ils se réunissent ce matin dans une grande salle de Notre-Dame-des-Landes.
Le nombre de mouvements d'avions, par exemple, hein. la superficie de l'aérogare, hein, des choses que les décideurs considèrent comme des détails, mais que nous considérons comme capitales. Voilà, donc cette plateforme a été...
Françoise Vercher, j'ai terminé mon dernier mandat de conseillère générale à l'époque, et donc j'étais le maire de Bouguenay, commune de l'actuel aéroport, et donc conseillère générale jusqu'à ce printemps. Et je suis toujours coprésidente du collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le CDEPA.
Alors, tout a été fait dans l'ordre. Il y a eu un débat public, il y a eu une enquête publique, oui. Il y a eu 53 recours juridiques. Mm-hmm. Pourquoi, à un moment donné, ne pas laisser faire ce projet et respecter la démocratie?
L'argument du président de la région est celui que l'on nous ressort en permanence. On a respecté les procédures. Vous devez reconnaître que la démocratie a fonctionné. Non, pour plusieurs raisons. Parce que il y a d'abord des défauts. Le premier, c'est l'utilité publique. C'est la définition de l'utilité publique. Il faut bien reconnaître que les porteurs de projets ont une conception de l'utilité publique qui n'est pas forcément celle des citoyens. Dans chaque débat public, les citoyens viennent poser la question fondamentale: quelle est l'utilité sociale de ce projet? Et en règle générale, on leur répond: il est porteur d'avenir, il est porteur d'emploi, il est porteur de développement, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est plus dans le domaine de la foi et de la croyance que dans le domaine de la preuve de l'utilité publique. Mais il y a aussi les problèmes techniques de saucissonnage du dossier, c'est-à-dire qu'on découpe le dossier en petits morceaux de manière à ne pas voir la totalité des impacts. C'est flagrant pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, puisque aujourd'hui, on vous parle d'un aéroport, mais on n'a pas du tout étudié la liaison ferroviaire. On n'a pas étudié les liaisons routières, les barreaux, etc. C'est-à-dire qu'on a discuté de la question de la saturation de l'actuel aéroport. Et en plus, on a menti. C'est-à-dire qu'on a affirmé une saturation qui n'existe pas. complètement. Donc le saucissonnage pose problème. Le troisième problème technique, quasiment, c'est que l'impact environnemental arrive à la fin. C'est-à-dire qu'on a déjà déclaré l'utilité publique et on s'aperçoit, ah, le site qui est choisi, ah, c'est un site embêtant, c'est une zone humide, bon, bah, quand même, on va quand même le détruire. Lorsqu'il y a une étude environnementale, ce qui est obligatoire sur ces gros dossiers, elle est en fait financée par le porteur de projet. Donc l'indépendance de l'étude environnementale peut être mise en question. Et c'est le cas ici, mais c'est le cas à Roibon, c'était le cas à Sivens, hein, par exemple, hein, pour citer ces cas emblématiques. Le porteur de projet, évidemment, paye un bureau d'études qui dépend de lui. Et donc nous avons la preuve de certaines omissions, de certains oublis, de certaines failles dans l'étude environnementale. La meilleure preuve à Notre-Dame-des-Landes, c'est que la commission scientifique nommée par Jean-Marc Ayrault, pourtant favorable à ce projet, la commission scientifique a dit « l'état des lieux est insuffisant, a été mal fait ». Un des problèmes, c'est que dans ce cas-là, les recours juridiques ne sont pas suspensifs. Et donc les tractopelles vont beaucoup plus vite que la justice. Donc on pourrait se retrouver avec des travaux qui commencent alors même que la justice n'aurait pas dit le droit. C'est pour cela qu'il y a eu des ZAD, c'est pour cela qu'il y a une résistance sur le terrain. Car on a des cas fameux en France, j'en prends un qui n'a rien à voir, qui est l'université Paris Diderot. Le permis de construire a été annulé par la justice 2 ans après l'inauguration.
Et ça, en l'état, le gouvernement a accepté de suspendre de lui-même,
excusez-moi, il a accepté devant le rapport de force, c'est-à-dire devant une grève de la faim dure de 28 jours sur Notre-Dame-des-Landes et devant une occupation de terrain et une résistance sur le terrain. S'il n'y avait pas eu cette résistance, les travaux auraient déjà commencé. Et puis il y a à côté quelque chose qui est beaucoup plus grave encore, qui sont les failles éthiques, c'est-à-dire morales. Il y a les problèmes de conflit d'intérêts. Chez nous, on a quand même un préfet qui a signé le décret d'utilité publique et qui a ensuite été embauché par Vinci. Ça n'est pas illégal, mais ça pose quand même beaucoup de questions aux citoyens sur le pouvoir, les conflits d'intérêts. Il y a la question de la transparence, c'est-à-dire que nous n'avons, par exemple, jamais eu accès au cahier des charges de l'État lorsqu'il a lancé la procédure de consultation pour avoir un concessionnaire. C'est comme si c'était secret défense. C'est ahurissant. C'est de l'argent public, c'est un équipement d'intérêt général, un aéroport. Nous ne savons pas ce que l'État a demandé. Et ça, pour les citoyens d'aujourd'hui qui sont actifs et qui savent lire, écrire et compter, eh bien, on ne peut pas les traiter comme cela.
Pour compléter ce reportage, nous invitons ce matin un juriste, Dominique Rousseau. Vous enseignez le droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez siégé également dans ce que l'on appelait la commission Jospin pour la modernisation de la vie publique. Vous consacrez une bonne partie de votre travail à analyser ce que vous considérez comme une dérive de nos institutions démocratiques. Que nous dit ce phénomène des zadistes de l'état de notre démocratie, Dominique Rousseau ?
Ce que dit le mouvement zadiste, c'est certainement la fin d'un cycle de la démocratie, le cycle représentatif. La démocratie représentative, c'est une formule contradictoire. Dans la mesure où la démocratie, c'est le peuple qui parle, et la représentation, c'est les représentants qui parlent à la place du peuple. Par conséquent, il arrive toujours un moment dans la démocratie représentative où le peuple considère que ses représentants n'expriment pas exactement, correctement, ce que le peuple veut. Et à ce moment-là, le peuple se met à parler, alors à parler à côté de ses représentants, contre ses représentants. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste en France, mais également dans d'autres pays européens, c'est cette reprise de la parole directe par les peuples qui considèrent qu'ils sont capables de vouloir, d'agir, de penser pour la société sans avoir besoin d'une représentation, dans la mesure où cette représentation aujourd'hui déforme ou exprime mal la volonté des représentés.
Quand vous analysez les causes de cette situation, vous parlez de, notamment de l'autisme des hommes politiques, des hommes, malheureusement l'expression française est encore de rigueur. Ouais. Le fossé qui sépare aujourd'hui les responsables politiques des citoyens vous paraît infranchissable.
Je pense qu'aujourd'hui, les canaux habituels par lesquels passait l'information entre les citoyens et leurs représentants, les partis politiques, les syndicats, le Parlement, ces canaux sont bouchés parce que les représentants n'entendent plus, n'écoutent plus, ne sont plus connectés, comme on dit aujourd'hui, ne sont plus connectés à la société. Ils sont dans leur monde. Il y a eu un phénomène de repli de la classe politique sur elle-même avec, comme exemple topique, le Front National, où c'est devenu une famille. Hein. Donc, quand je parle d'autisme, je veux dire que les représentants n'entendent plus, ne comprennent plus les manières de réagir de la société. Et de son côté, la société se dit, puisque nos représentants ne nous comprennent plus, ne nous représentent plus, au sens premier du terme, ils cherchent ailleurs, un peu n'importe comment, un peu de manière désordonnée, et notamment par les ZAD, hein, qui se multiplient un peu partout, ou par les indignés en Espagne, ou par Occupy Wall Street à New York. Ils cherchent d'autres voies pour exprimer leur volonté. Et l'enjeu aujourd'hui de notre société, c'est que ceux qui font le travail de penser propose comme sortie de cet autisme plus de démocratie et non pas moins de démocratie et non pas le populisme.
Cette voie vers ce que vous appelez la démocratie continue, vous la voyez passer par les institutions et notamment par une nouvelle constitution ?
Alors oui, notamment, pas que, hein, bien entendu, mais en tant que juriste, j'essaie justement de voir comment ce plus de démocratie, ce que j'appelle démocratie continue, c'est-à-dire continue en ce sens qu'elle ne doit pas s'arrêter au moment du vote. Le métier de citoyen doit continuer entre deux moments électoraux en inventant les mécanismes, les institutions par lesquelles les citoyens pourront continuer, démocratie continue, pourront continuer à peser sur l'élaboration des lois, sur la prise des décisions publiques. Il faut arrêter cette idée que je vote et puis après eux, ils décident et nous, on n'a plus rien à décider.
Merci beaucoup Dominique Rousseau. On pourra retrouver sur le site de notre émission l'essentiel de votre bibliographie, notamment vos propositions pour replacer le citoyen au centre de la vie démocratique. Je vous signale également que cet été, le gouvernement doit présenter une série de propositions pour améliorer les procédures de consultation. Interception est une émission réalisée par Anne Luro avec le concours de Stéphane Combe et Christine Kern. Le reportage d'utilité publique était signé Mathilde Dehimi, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Pierrick Charles. Je vous souhaite une excellente journée.